BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Business, bonjour et bienvenue dans quelques instants. Vous retrouvez Edwige Chevrillon en direct du Conseil économique et social pour Impact PME. Mais tout de suite, les titres de l'actualité économique.
BFM Business, le journal.
La France va instaurer des quotas sur l'immigration professionnelle. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'a annoncé ce matin. Des objectifs chiffrés vont être fixés dès cet été, et ce, tous les ans, pour que la France recrute en fonction de ses besoins de travail, explique la ministre. Une liste des filières en tension va être fixée dès l'été prochain. Elle sera révisée chaque année. Emmanuel Macron appelle la Chine à ouvrir davantage son marché pour cette deuxième visite officielle de son quinquennat sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis. Le président veut renforcer la coopération économique avec la Chine. La France est l'invité d'honneur de la foire aux importations de Shanghai. Un accord sur les indications géographiques protégées doit être signé. 26 produits sont concernés, du vin de Bordeaux au Comté. Le déficit budgétaire de la France se creuse. Il s'est établi à 109 milliards d'euros à la fin du mois de septembre, contre 87 milliards il y a un an, selon des données publiées par le ministère de l'Action et des Comptes publics. Ben Smith dévoile la nouvelle stratégie d'Air France KLM pour les 5 années à venir. Un objectif, retrouver une position de leader en Europe, et une priorité, augmenter la rentabilité du groupe. Air France KLM vise une marge opérationnelle de 7 à 8% à moyen terme. Le groupe veut réaliser davantage de synergies, se recentrer sur les trois marques principales, Air France, KLM et Transavia, et renouveler sa flotte. Les avions qui doivent remplacer les A380 seront connus dans les prochaines semaines. Il est 12h et un peu plus d'une minute sur BFM Business. Tout de suite, le point sur les marchés. Le CAC 40 est toujours dans le vert à 5835 points. Il est en hausse de 0,19%. Et puis, l'eurodoll est à peu près stable à 1,11. Et tout de suite, vous retrouvez Edwige Chevrillon en direct du Conseil économique et social pour Impact PME. C'est à vous, Edwige.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Merci, oui, nous sommes ici en direct Impact PME et je reçois celui qui organise Impact PME, ex-Planète PME, François Asselin, bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être là. Là, vous êtes au milieu de d'autres chefs d'entreprise comme
oui.
Vous. Des patrons de PME, des patrons de TPE. Il y a combien de personnes à peu près autour de vous ?
Aujourd'hui, nous attendons un peu plus de 4000 personnes. On a explosé les compteurs puisque hier soir, nous étions à plus de 4500 inscrits. Donc, effectivement, regardez, c'est plein. La maison est pleine comme un œuf. C'est magnifique.
Ça se voit autour.
C'est une agora permanente avec, pour certains chefs d'entreprise, des réponses concrètes à leurs questions tout aussi concrètes. Bref, c'est une journée faite pour eux.
Et c'est une journée qui s'ouvre un peu dans un climat quand même plutôt favorable pour les PME. Vous-même, vous l'avez dit. Et en tous les cas, les chiffres sont plutôt positifs. La croissance, elle est là. Certes, elle n'est pas extraordinaire, mais enfin, elle est là. Vous êtes plutôt optimiste en cette fin d'année ?
Alors, vous savez, en tant que chef d'entreprise, d'abord, je n'ai pas le droit d'être tout le temps pessimiste. Comme on dit souvent, si on fait la tête dans les affaires, on ne fait pas d'affaires. Donc, regardons quand même les choses d'une façon concrète et factuelle. Oui, globalement, les entreprises ont plutôt de l'activité. D'ailleurs, les besoins et les envies d'embauche restent intacts. Ce qui veut dire que, dans notre pays, tout n'a pas encore été fait en termes d'emploi. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxièmement, on a quand même un coût d'énergie qui est resté raisonnable, avec le niveau des crédits que vous connaissez qui est extrêmement bas. Donc, les planètes restent alignées. Pour autant, effectivement, on voit autour de nous, en termes macroéconomiques, des signes de tension. Les relations sino-américaines ne sont pas quand même au plus beau fixe. On voit très bien qu'avec le Brexit, il y a une incertitude au niveau européen. Pour autant, écoutez, il faut savoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Pour l'instant, ça va pas trop mal. Faisons en sorte que ça continue à aller bien et surtout de développer un environnement favorable aux entreprises de notre pays.
Juste, on va revenir là-dessus. Juste, loi de finances 2020, il y a quand même... Je vous ai entendu, j'ai entendu aussi Geoffroy Roux-de-Bézieux dire que ce n'est pas forcément très favorable pour les entreprises. On est un peu en train de changer d'optique. On se demande pourquoi. Pourquoi vous dites ça ?
Bon, tout simplement parce que...
Parce qu'on râle toujours, il n'y en a jamais assez pour les entreprises, c'est ça ?
Non, mais il y a... Voyez-vous, La mère des réformes, qui est vraiment dans le champ de l'exécutif, et c'est sa responsabilité du politique, c'est de réformer ce qu'on peut qualifier de la sphère publique. On le voit d'ailleurs sur le dossier des retraites, ô combien c'est compliqué de réformer profondément notre pays. Pourquoi ? Parce que quand on a 56% du PIB, de la richesse produite par le pays, qui est captée pour alimenter la sphère publique, eh bien, le gouvernement n'a pas de marge de manœuvre pour alimenter justement la puissance économique du pays. Donc tant qu'on n'aura pas entamé cette réforme vraiment profonde de transformer la sphère publique, eh bien effectivement, on aura toujours une pression fiscale très élevée sur les entreprises.
Oui, vous voyez bien comme c'est difficile. Vous voulez tailler dans les hôpitaux, vous voulez tailler dans les écoles, vous voulez tailler chez les sapeurs-pompiers. Où est-ce que vous voyez ? Lorsqu'on voit le climat social français aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit que c'est difficile de supprimer les fonctionnaires.
Bien sûr, mais vous savez, ce n'est pas qu'une question, entre guillemets, de supprimer ou pas les fonctionnaires. D'abord, je pense que dans la fonction publique, et là je m'exprime de l'extérieur puisque je n'y travaille pas, mais il y a un énorme problème de management, si vous voulez. Oui. Quand vous avez un système où, qu'on soit bon ou mauvais, on a le même avancement, comment voulez-vous être motivé ? Donc, je pense qu'il y a de fond en comble à revoir.
Très mauvais employeur.
Voilà, c'est un très mauvais employeur. Donc déjà, de ce point de vue-là, il y a des gains de productivité énormes. Vous avez des collectivités territoriales qui se battent tout simplement pour faire 35 heures par semaine. Bon, comme quoi, les marges de manœuvre sont quand même là, si vous voulez. Nous sommes quand même en Europe, encore un pays où le nombre d'heures travaillées par an en moyenne est inférieur à beaucoup d'autres pays européens. Donc, il y a des marges de manœuvre. Donc, pour autant, lorsque, effectivement, on n'a pas entamé ce genre de réforme, eh bien, vous ne pourrez pas baisser la pression fiscale qu'il y a sur les acteurs économiques. Ceci dit, la fiscalité est une chose.
Attendez, beaucoup de choses ont été faites. Alors, quand même, c'est incroyable, c'est moi qui vais me faire le défenseur, en tous les cas, de la politique économique. Mais enfin bon, vous avez quand même une trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. Vous avez quand même des choses qui sont passées. Baisse des charges sociales. Il se passe des choses. Alors, il faut dire qu'on vient de loin. Là, vous avez raison.
On vient de loin. Oui, mais vous savez, Edwige, lorsque vous payez vos impôts, qu'ils soient au niveau de votre territoire, commune, département, en région ou au niveau national, par exemple à travers l'impôt sur les sociétés, ça sort toujours dans la même poche. Donc si on a effectivement, et ça il faut s'en féliciter, une trajectoire baissière de l'impôt sur les sociétés, mais qu'en même temps votre fiscalité territoriale explose, et bien en attendant, vous êtes fragilisé.
Alors ça c'est les impôts de production, vous faites allusion, parce qu'il y a une pression extrêmement forte. Je recevais Philippe Varin, qui est le président du Conseil national de l'industrie, avec Louis Gallois, enfin co-président. Là, il y a un pacte productif qui va être signé. Est-ce que vous y participez, vous les PME? Parce qu'on entend surtout les grands industriels en parler.
Oui, bien sûr, nous sommes très présents. Ce matin, nous recevions, et c'est elle qui a ouvert un pacte PME, notre salon, Agnès Pannier-Runacher, avec qui nous travaillons au quotidien sur, effectivement, ce pacte productif. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la majeure, sinon l'immense majorité des entreprises sont en territoire. Ce sont soit des acteurs directs de l'industrie, on va dire, en général, soit ce sont des sous-traitants, donc indirects. Donc, bien évidemment, les PME sont au cœur de ce projet. Et puis, n'oublions pas que ça se passe au niveau du territoire. C'est-à-dire que les compétences dont nous avons besoin, on ne va pas les chercher à des milliers de kilomètres. C'est souvent autour de son entreprise, dans son bassin de vie.
Justement, c'est comment faire ? On ne va pas trouver la réforme de la fiscalité locale tous les deux. Ça serait un peu trop simplet. En revanche, il y a quand même une vraie... Vous êtes implanté justement dans un territoire, en Vendée. Est-ce que... Vous voyez bien, on supprime la taxe d'habitation, on va supprimer les impôts de production, mais comment est-ce que... Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent, les collectivités territoriales ?
Voyez-vous, à partir du moment... D'abord, regardez ce qui s'est passé. On va faire un tout petit flashback. Ouais. À travers la loi NOTRe, qui veut redessiner la cartographie territoriale de la France. Cette loi, au départ, était faite pour retrouver plus d'efficacité, enlever du millefeuille administratif et finalement dépenser moins d'argent pour investir plus.
Et le résultat, c'est le contraire.
Le résultat, c'est le contraire.
D'accord.
Donc, autant vous dire que nous sommes complètement passés à côté de cette réforme. Donc, effectivement, il n'y aura jamais assez de recettes pour financer des réformes ratées.
L'impôt de production, celui que vous demandez, je vais dire en tête de liste, c'est lequel pour vous ? Pour les PME.
Aujourd'hui, tout ce qui touche aux valeurs locatives, donc qui s'appuie sur les valeurs locatives, donc CVAE, CFE, sont des impôts de production que nous regardons avec beaucoup de vigilance, parce que dans certains territoires, c'est pas vrai partout, mais dans certains territoires, il y a une vraie explosion. Donc ça, effectivement, ça impacte directement l'activité de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que vous gagnez ou pas de l'argent, vous payez.
Taxe sur le chiffre d'affaires.
Voilà.
Ça, c'est vraiment un truc un peu aberrant.
Oui, et vous voyez... On parlait de feu la taxe professionnelle qui était soi-disant un impôt inutile, ubuesque. Hein. Eh bien, en 2021, le volume, le montant de l'impôt à travers la CVAE et la CFE devrait atteindre celui de feu la taxe professionnelle. Nous sommes extrêmement créatifs dans notre pays pour tout ce qui touche la taxation.
C'est sûr. On parle de réformes, là, il y a beaucoup de réformes en cours. Hein. On en a parlé avec Muriel Pénicaud. Réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites. On commence par la réforme des retraites parce que vous avez une formule qui a fait un peu florès, c'est de dire une réforme universelle, mais avec pas des exceptions pour certains.
Ben, écoutez,
mais comment vous faites ?
Ah ben si, c'est pas compliqué. D'abord, pourquoi cette réforme serait-elle universelle pour certains ? Je pense aux salariés du secteur marchand, je pense aux indépendants, aux professions libérales, et exceptionnelle pour d'autres.
Et parce que c'est pas le même système. Vous prenez les professeurs, vous prenez les militaires. Il y a un système de rémunération qui est très différent.
Alors,
il y a
nous n'avons
un peu regardez en face.
Mais vous avez raison, Edwige, on a le droit d'être aussi intelligent et la CPME, nous le sommes. C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'il y a certains métiers, certaines missions régaliennes de l'État, certains métiers plus exposés physiquement que d'autres, où, bien évidemment, on peut réfléchir à un système de retraite spécifique. Et puis, il y a aussi les carrières longues auxquelles nous sommes attachés dans nos entreprises, particulièrement dans nos PME et dans mes métiers, bien évidemment. Pour autant, est-ce que vous croyez normal que, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'évolution du monde de notre société, eh bien, on ne change rien pour certains et on change tout pour d'autres? C'est profondément injuste. C'est-à-dire que si pour les salariés ou les indépendants, en 2025, on enclenche la multiplier, la surmultiplier pour aller dans ce nouveau régime universel et que de l'autre côté, on attend 40 ans, écoutez, là, c'est pas un pacte.
D'accord, donc vous ne voulez pas, en tous les cas, de cette possibilité, ouverture donnée par le président, mais aussi un peu par Muriel Pénicaud, qui est de dire on peut aller plus vite pour les systèmes où la convergence est facile, mais en revanche, d'autres systèmes, il faut qu'on attende plus longtemps la fameuse clause du grand-père.
Je crois qu'il y aurait un système d'en sortir par le haut de tout cela. Parce qu'effectivement, pourquoi pour certains on fait une exception et pas pour d'autres ? Eh bien déjà, on pourrait se dire que le régime universel pourrait concerner l'ensemble des actifs, quelle que soit leur typologie, jusqu'à 40 000 euros de revenus par an, c'est un pas de la sécurité sociale. Et au-delà, on garde des régimes complémentaires obligatoires, gérés en responsabilité, en indépendance, par les partenaires sociaux pour les salariés, indépendants et professions libérales pour ceux qui les concernent, et puis fonctionnaires et État pour leur régime spécifique.
François Asselin, l'heure passe très très vite, alors j'ai encore trois sujets importants à voir avec vous. Réforme de l'assurance chômage, en un mot, Laurent Berger, la CFDT, disait à mon micro, incroyablement brutal, ça va mettre sur le carreau beaucoup de gens. Muriel Pénicaud répond non, pas du tout, parce que la formation elle est là. Vous en pensez quoi ?
Oh, ce que je pense, si vous voulez, c'est que la vérité est au milieu de tout ça.
Voilà.
Dans la mesure où, quand on se regarde, on peut prendre peur, et quand on se compare, on est plutôt assez rassuré. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il arrive, le régime assurantiel de l'UNEDIC reste plutôt favorable par rapport, même très favorable en France, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays européens. Le vrai enjeu de cette réforme, c'est de raccrocher le plus rapidement possible celui qui perd son emploi. C'est ça le vrai enjeu, d'avoir des mesures qui effectivement incitent à la reprise d'emploi plutôt que de rester enfermé dans un système qui collectivement est porté.
Un mot, parce que c'était un peu l'annonce de ce matin. Enfin, en l'occurrence, ça sera demain qu'Edouard Philippe doit présenter un plan d'immigration. Il y aura un volet quota professionnel. Ça va vous concerner forcément, parce qu'il y a des filières entières où on ne trouve pas d'emploi. Les emplois ne sont pas pourvus. Est-ce que pour vous, vous dites plutôt une bonne chose ?
Écoutez, quand on a d'abord plus de 3,5 millions de demandeurs d'emploi en France, il faut d'abord former ceux qui sont en attente d'avoir des emplois. Ça, c'est un premier enjeu. Deuxièmement, effectivement, il y a des secteurs où tout de suite, on a besoin de compétences. Si on ne les trouve pas, quand vous êtes employeur, si vous avez une compétence, quelle que soit la couleur de la personne, son sexe ou l'origine d'où il vient, s'il est courageux, s'il a des compétences et du potentiel, eh bien, vous l'embauchez. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si on doit faire des choses paisible et intelligente, pourquoi pas imaginer ce système de quotas qui d'ailleurs, me semble-t-il, n'était pas nouveau, puisque
ça existe, mais ça va être élargi en l'occurrence.
Voilà, élargir. L'autre chose dont il faut éviter l'écueil, c'est de ne pas siphonner les pays qui ont besoin aussi de ces compétences. Ça, faut jamais l'oublier.
Mais ça, c'est un point, et on l'oublie souvent, vous avez raison de le mentionner. François Asselin, dernière question qui nous touche, qui me touche, qui ne vous touche pas en l'occurrence. On en parlera avec Muriel Pénicaud, c'est l'égalité salariale.
Oui.
Les hommes et les femmes dans les PME, à mon avis, elle n'existe pas beaucoup.
Oh, alors ça, c'est vous qui le dites.
Ouais. Non, je ne crois pas. Rendez-vous dans quelques mois. Écoutez, puisque vous allez être obligé d'appliquer justement
le fameux
index d'égalité salariale.
Exactement. Il faut savoir qu'à partir... Alors d'abord, dès aujourd'hui, sur le site du ministère du Travail, il y a ce fameux simulateur. Donc j'engage l'ensemble des chefs d'entreprise à aller voir ce simulateur, à l'utiliser pour voir où nous en sommes dans leur propre entreprise sur l'égalité hommes-femmes. Et puis, à partir du 1er mars prochain, dans les entreprises de plus de 50 salariés, il faudra avoir mis en place ce système qui va évaluer si vous êtes bien dans la moyenne de l'égalité hommes-femmes.
Et chez Asselin, on est où? On se situe où?
Eh bien, je vous répondrai vendredi prochain, puisque nous l'avons mis en place, nous le mettons en place cette semaine.
Oui, d'accord. Et à mon avis, vous êtes quoi, en dessous les 75?
Alors ça, c'est vous qui le dites. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que dans les PME, vous avez des métiers qui sont extrêmement masculins.
Donnez-moi un chiffre, donnez-moi un chiffre.
Vous avez des métiers qui sont extrêmement masculins. Ouais. Je vais vous prendre un exemple. J'ai une quarantaine de charpentiers, j'ai pas une seule femme. J'ai une quarantaine de menuisiers, j'ai deux femmes.
Comme quoi, mon intuition était bonne. Allez, merci beaucoup, François Asselin.
Merci.
On vous libère parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendent. François Asselin, donc le président de la CPME qui organise Impact PME, était notre invité.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Et notre invité, c'est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. À partir de 16h47, vous, moi, les femmes ici, on travaille gratuitement, en l'occurrence. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'il est temps peut-être de faire bouger les choses? En tous les cas, c'est le message que vous avez voulu faire passer ici avec votre index d'égalité professionnelle. Et on sait que notamment dans les PME, puisque nous sommes à Impact PME, c'est toujours très difficile.
Oui, alors, vous avez raison, on profite de nos dernières heures de travail salarié.
Oui.
Plus sérieusement, oui, pour moi, c'est un combat de ma vie parce que je pense que l'autonomie financière, l'égalité des chances de carrière, de promotion, qui n'est pas du tout la réalité aujourd'hui, c'est la première chose qui permet d'être libre. Et aujourd'hui, il y a encore 9% d'écart pour le même travail entre une femme et un homme en France. Et il y a 25% d'écart sur la carrière. C'est inadmissible. C'est pour ça qu'il y a un an, on a pris une mesure vigoureuse. On a travaillé des mois avec les partenaires sociaux. Je salue d'ailleurs parce que tout le monde, tant du côté patronal que syndical, a vraiment contribué à construire la solution. Et dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, on a créé une obligation de résultat pour les entreprises avec un index qui permet de mesurer. Parce que dans une entreprise, les PME le savent bien, on ne progresse que quand on mesure. Et cet index, maintenant, il est déjà appliqué pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Et au 1er mars de l'année prochaine, ce sera les 40 000 entreprises de plus de 50 salariés.
Oui, alors justement, et là, vous allez adapter un peu, pardon, il y avait 5 indicateurs,
il y en a plus 4 indicateurs.
C'est si difficile que ça?
Non, en fait, c'est facile,
oui.
Parce que c'est des données connues. Mais c'est normal qu'on quelque chose qui a une révolution, parce qu'on passe à une obligation de résultat, et bien qu'on ait donné un an de plus pour les PME. Moi, ça m'allait très bien. C'était la demande de la CPME qui porte cette réforme. Et on a pu, du coup, nommer 30 ambassadeurs qui sont des chefs d'entreprise, ambassadrices et ambassadeurs, des chefs d'entreprise qui vont aller sillonner la France pour dire à leurs collègues à quel point, bien sûr, c'est une question de justice sociale. Mais en fait, on voit que c'est aussi un levier de performance économique. On a une hotline qui se met en place au 1er janvier. Et là, depuis ce matin, sur le site du ministère du Travail, il y a un simulateur. Donc, vous êtes chef d'entreprise dans une PME, vous mettez vos données, c'est des données qui existent, et vous avez tout de suite votre index simulé, ce qui vous permet de voir ce sur quoi vous pouvez progresser avant le D-Day du 1er mars.
Et la sanction, c'est quoi? La sanction à la clé?
Alors, la première, d'abord, vous avez 3 ans pour arriver à l'égalité. L'égalité, c'est 100 points sur 100. Celles qui ont moins de 75 points, elles sont vraiment très mauvaises sur l'égalité. Il faut agir d'urgence. Il faut publier votre index. Donc, même pour attirer des jeunes, si vous avez une bonne note, je peux vous dire que les femmes et les jeunes aujourd'hui, ils veulent aller dans des entreprises égalitaires. Et ensuite, dans les 3 ans, si on contrôlera toutes les entreprises. Si au bout de 3 ans, elles n'ont pas rectifié,
oui,
et qu'elles ne respectent donc pas la loi,
alors,
eh bien, à ce moment-là, il y aura des sanctions financières.
D'accord.
Mais je pense qu'il y en aura très peu, parce que la dynamique est bonne. Et je pense qu'il y en aura très peu auxquels on devra imposer une sanction financière.
Dernière question là-dessus. Après, sinon, on va nous taxer d'être féministes. Enfin, c'est vrai que c'est un vrai sujet.
Mais moi, je revendique de l'être.
Et moi aussi, vous inquiétez pas. Alors, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas... Il y a la loi Copé-Zimmermann qui a fait beaucoup progresser les choses.
Oui.
Dans les conseils d'administration, on voit que la France est très en avance en
oui.
termes de gouvernance. Est-ce qu'il ne faut pas aller faire le même type de loi, je ne sais pas, sur les comités exécutifs ou...
Alors, on vient de faire... La loi qu'on a fait, l'égalité pro, c'est du même ordre et de la même puissance que la loi Copé-Zimmermann. Zimmermann. D'ailleurs, on a aussi donné du temps, 3 ans, pour pouvoir avoir le temps de réussir. Aujourd'hui, notre loi, c'est considéré comme une des plus avancées dans le monde. Si on réussit, je crois qu'on peut réussir, on aura 2 lois majeures en France, Copé-Zimmermann et la loi Avenir Pro, qui feront une grande avancée. Et par ailleurs, on travaille avec Bruno Le Maire et Marlène Schiappa sur l'émancipation économique des femmes, notamment les entrepreneuses, où il y a encore des choses à faire.
Alors, il y a beaucoup de thèmes d'actualité avec vous. Évidemment, la réforme de l'assurance chômage qui fait grincer beaucoup de dents. Vous êtes là aussi pour la défendre. Il y a là, toute la formation, l'apprentissage qui est un de vos combats. Ce matin, il y a une annonce que vous avez faite chez le confrère de BFM TV, en l'occurrence. C'est sur l'immigration avec des quotas professionnels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont ici, que ça peut intéresser.
Alors, le Premier ministre, demain, va réunir un comité interministériel sur le sujet de l'immigration, où il va faire un certain nombre d'annonces. Un des sujets sur lesquels on travaille, c'est le sujet de l'immigration professionnelle. L'immigration professionnelle, ça concerne aujourd'hui 33 000 personnes par an, donc des personnes qui viennent d'autres pays, en principe pour répondre à des besoins de l'économie qu'on n'arrive pas à pourvoir en France. Alors, notre priorité, c'est évidemment de mettre le paquet sur la formation, sur l'insertion, pour que le maximum de demandeurs d'emploi de jeunes puissent répondre aux besoins des entreprises.
On va revenir à
la première priorité. Oui. La deuxième, ensuite, on accueille, on croit aux droits de l'homme, on est une république responsable, on accueille des réfugiés. Et eux aussi, il faut leur permettre une insertion. On multiplie les programmes dans mon budget pour leur permettre un emploi. Mais ensuite, il y a des besoins non couverts. Et les fameux métiers en tension, les entreprises le vivent tous les jours.
Par exemple. Quelles sont les filières qui seront concernées?
Alors, il y a des filières entières. Il y a certains métiers du bâtiment, certains métiers de l'automobile, les aides aux personnes. Mais on manque de géomètres, de dessinateurs. On manque dans plein de domaines.
C'est pas forcément que les jobs dont ne veulent pas les Français.
Non, c'est aussi des jobs sur lesquels, historiquement, on n'a pas assez investi dans la formation. Donc on est en train de le faire là, avec le plan d'investissement dans les compétences. L'année prochaine, on forme 960 000 demandeurs d'emploi et jeunes. L'apprentissage est en train d'exploser grâce à notre réforme et à l'engagement des entreprises. Donc on met le paquet là-dessus, plus la formation initiale. Mais le temps que tout ça arrive, et puis il y a toujours quelque chose qui manque. Et donc il faut pouvoir permettre une immigration professionnelle mesurée, dont on maîtrise les flux, mais qui correspondent par exemple aux besoins non couverts. Donc on va travailler avec les partenaires sociaux et les régions.
Ça serait 10 000 personnes, ça serait combien à peu près?
Enfin, juste pour avoir un ordre de grandeur. Ça ne se fait pas par décret. On va travailler avec les partenaires sociaux et les régions, et Pôle emploi et l'ADRES, et on va travailler plusieurs mois pour repérer tous les besoins. Parce que peut-être qu'on a un besoin, mais qui est en Auvergne, qui est dans le Grand Est, et qui n'est pas à Paris.
Oui, mais les postes non pourvus, on dit que c'est à peu près, c'est vous le ministre
du Travail. Les postes non pourvus, c'est
entre 300 et 400 000.
Oui, mais dans les postes 300 et 400 000, il y en a une grande partie qu'on peut pourvoir en investissement dans la formation. D'accord. Et dans l'apprentissage. Et puis en transformant les règles de l'assurance chômage aussi. Donc on a une partie de la première responsabilité, c'est de faire dans notre pays. Mais ensuite, il faut que les entreprises puissent embaucher aussi en complément des personnes qui viennent d'autres pays sur les besoins qui seront repérés. Et par contre, on fera des mesures beaucoup plus simples. Parce que comme ça sera les vrais métiers dont on a besoin, aujourd'hui il y a une liste qui est pas obsolète, les vrais métiers qui manquent, dont on a besoin pour la France, c'est un sujet de ressources humaines de la France, et bien à ce moment-là, du coup, la procédure sera très simple pour les entreprises derrière, et avec des gros programmes d'intégration.
Et ça sera une dizaine de milliers, ça sera une centaine
aujourd'hui,
de milliers.
Aujourd'hui, c'est 33 000. Je n'ai pas tellement de raisons de penser que l'ordre de grandeur changera beaucoup.
D'accord.
Mais ça ne se décrète pas, ça se constatera.
Ok, c'est assez important. Alors justement, on va parler de la réforme de l'assurance chômage que vous partez en ce moment. Une réforme qui fait peur. Hein. Je recevais Laurent Berger, le leader de la CFDT, hier, qui disait que c'est une brutalité inouïe, elle est injuste, notamment pour les plus fragiles, pour la précarité. Il disait qu'il aurait peut-être d'abord fallu investir sur la précarité, sur la formation que vous défendez, sur l'apprentissage, et après faire cette réforme. Là, vous avez mis un peu la charrue avant les bœufs. En tous les cas, c'est ce que disent certains commentaires.
Alors, d'abord, je m'excuse de le dire, avec tout le respect et même l'amitié que j'ai pour lui, mais je ne comprends pas le jeu de Laurent Berger là-dessus. Je pense qu'il fait de la politique.
Il vous a taclé, il a dit qu'il n'appréciait pas ce fait.
Je pense que c'est un jeu d'ordre plus politique qu'autre chose. Et surtout, honnêtement, nous n'avons pas de leçons à prendre des partenaires sociaux qui ont négocié 5 mois, qui n'ont pas abouti dans leurs conclusions. Je peux vous dire que les partenaires sociaux, quand ils veulent aboutir, ils aboutissent. Ils n'ont pas abouti, ils nous ont dit « débrouillez-vous, maintenant nous prenons nos responsabilités ». Parce que le statu quo, c'était bien. Est-ce que le statu quo, c'est bien qu'aujourd'hui, un demandeur d'emploi...
Donc la CFDT n'a pas fait son job, c'est ce que vous dites, n'a pas fait son job.
Les partenaires sociaux n'ont pas abouti.
Notamment, c'est le principal.
Il est normal que l'État prenne ses responsabilités pour nos concitoyens. Et dans cette réforme, d'abord, nous avons d'abord investi sur la formation, sur l'apprentissage. Le plan d'investissement compétences, c'est un investissement comme jamais. L'apprentissage est en train d'exploser. On vient d'avoir le plus grand nombre d'apprentis qu'il y a jamais eu. Donc, on est en train d'investir sur les plus fragiles. J'ai un programme de soutien aux plus fragiles par l'activité économique. Ça s'appelle l'insertion par l'activité économique. Demain soir, je suis au Parlement pour défendre mon budget. Non, ce soir, c'est 1 milliard d'euros qu'on met sur la table. On investit à fond.
Et peut-être
donc,
aurait-il
tout ça,
fallu comment
avant.
Le faire.
Mais c'est ce qu'on a fait.
Oui, mais que ça porte ses fruits. Parce que
ça commence à porter ses fruits. Il y a 500 000 d'emplois qui ont été créés. Il y a plus 8% d'apprentissage. Ça porte ses fruits.
D'accord.
Et donc, en revanche,
vous
dans la réforme de
d'avoir mis la charrue avant les bœufs.
Non, on a justement commencé par la formation, par l'insertion, par l'apprentissage, pour que chacun ait la chance de trouver un emploi et un emploi de meilleure qualité. Maintenant, il y a des choses qu'il faut régler. Moi, je ne peux pas me résigner que 9 embauches sur 10 soient des emplois précaires. Certains proposent le statu quo. Comment on peut proposer le statu quo quand 9 embauches sur 10 sont précaires?
Oui, mais qu'est-ce que vous proposez à ceux... Je ne sais pas, vous n'avez pas fait d'étude d'impact, la seule étude d'impact...
Bien sûr que si, on a fait d'étude d'impact. Il y a un salarié, un demandeur d'emploi sur 5 aujourd'hui
qui
gagne plus au chômage qu'au travail. J'en appelle au bon sens. Comment on peut trouver que le système est bon pour ceux qu'on décourage d'aller prendre un travail. Les artisans, les commerçants, ils le voient bien.
Mais dans ce climat actuel, vous voyez bien que de matière... On dit, c'est l'étude d'impact de l'UNEDIC, peut-être qu'elle est trop dramatique, mais qu'il y a entre 1,4 million et 1,5 million de chômeurs qui ne vont plus rien toucher. Donc, est-ce que vous dites que
c'est faux?
C'est faux.
Alors, d'abord, je voudrais dire, tous ceux qui ont ce travail en continu, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, quand ils vont entrer à l'assurance chômage, rien ne change pour eux. Déjà, je voudrais le dire. Deuxièmement, ceux pour lesquels il y a une diminution partielle, provisoire dans l'indemnité, parce que leur capital de droit reste le même, c'est uniquement ceux qui aujourd'hui gagnent plus au chômage qu'en travaillant. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui travaille pour 15 jours par mois, pour une fois et demie le SMIC en référence. Aujourd'hui, il gagne 880 euros net comme salaire. Il a 1200 euros d'indemnité. D'accord. Eh bien, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas, comme tous les autres demandeurs d'emploi, entre 65 et 96%. Est-ce que ça, c'est mettre les gens dans la précarité? Non.
Non.
On investit comme jamais dans la formation, dans l'accompagnement. 1 million de demandeurs d'emploi auront un nouvel accompagnement.
Je
crois que c'est très équilibré.
Sur la formation, mais juste avant, est-ce que vous êtes prêt, vous dites là aujourd'hui, à rectifier le tir si vous vous rendez compte que l'impact, il est très fort,
ça fait
très brutal
un an,
pour
ça fait un an et demi que nous discutons ces sujets avec les partenaires sociaux. Donc, on a beaucoup simulé. Je suis beaucoup allée sur le terrain. L'autre jour encore, j'étais dans des agences Pôle emploi où je peux vous dire qu'on voit bien la réalité du terrain. Moi, je suis sur le terrain tout le temps. Et cette réforme, elle répond aux besoins d'un accompagnement beaucoup mieux fait. On fait un accompagnement comme ça n'a jamais été fait. Jamais. Jamais les entreprises et les demandeurs d'emploi vont être aussi bien accompagnés.
Alors, dernière question.
On responsabilise les employeurs et on fait juste des règles de bon sens qui reviennent à la normale avant la crise.
Avant
aujourd'hui,
2008, vous avez raison de le souligner.
On remet des règles qui existaient avant la crise.
Une dernière question, Muriel Pénicaud. Le compte, c'est important, le compte personnel de formation, il va être lancé le 27 novembre.
C'est le 21 novembre.
21 novembre. Vous maintenez, donc tout sera sur la table.
25 millions de Français, demandeurs d'emploi et surtout salariés, tous les salariés du secteur privé, lucratif et non lucratif, le 21 novembre, ils auront un compte formation sur Internet ou sur leur appli. Déjà crédité le compte, donc il n'y a rien à faire, juste mettre votre numéro de sécurité sociale. Et là, vous aurez toute l'offre de formation dans le pays auquel vous pourrez accéder directement et vous serez crédité de 500 euros par an. C'est une liberté formidable. On est le premier pays au monde à le faire. Et ça va être une liberté aussi de mieux choisir sa vie, de pouvoir évoluer, changer d'entreprise,
ça,
changer de métier.
C'est aussi un gros chantier.
Ou progresser. Je crois que c'est un grand droit nouveau.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muriel Pénicaud était notre invitée sur BFM Business.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Nous sommes toujours ici en direct à Impact PME au 16e au Conseil environnemental sociétal. Notre invité, c'est Yves Perrier. Il est le patron d'Amundi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous collectez de l'argent, on va dire, et beaucoup, beaucoup d'argent en l'occurrence. Gestionnaire de fonds, vous avez annoncé vos résultats. Vous avez collecté maintenant, je crois, que vous dépassez les 1500 milliards d'euros de collecte, donc un chiffre jamais atteint. Qu'est-ce qui fait que tout se passe bien pour Amundi, Yves Perrier, c'est parce que c'est les syndicalistes, c'est pour ça que j'y pense. Yves Perrier.
Mais écoutez, en effet, nous avons publié nos résultats de ce trimestre et je crois qu'on peut les qualifier de très satisfaisants, voire de très bons. Nous avons collecté plus de 40 milliards d'euros dans le trimestre. Notre résultat opérationnel est en progression de 10%. Et nous avons fini l'intégration de Pioneer, une société que nous avons acquise. Et donc, nous sommes maintenant pleinement tournés vers le développement. Et d'ailleurs, notre cours de bourse a augmenté de 6%.
Ouais, alors là, vous faites votre pub, vous avez raison, pour ceux qui vous écoutent. On va quand même rappeler que le géant d'actifs que vous gérez, en l'occurrence, est une filiale du Crédit Agricole, la Société Générale. Si je vous dis ça, on a des marchés qui sont difficiles quand même. Il y a la géopolitique qui inquiète, qui vous inquiète. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les tensions commerciales. Et en même temps, vous signez une des meilleures performances de votre histoire. Pourquoi ? Quels ont été les facteurs porteurs pour ce troisième trimestre ? Parce que ce n'était pas le cas en début d'année.
Alors, une précision, nous sommes plus que filiale du Crédit Agricole. La Société Générale est sortie au moment de la cotation. En fait, pourquoi Amundi collecte beaucoup ? C'est le fruit d'une stratégie de développement qui a consisté à renforcer toutes nos expertises, faisant de la gestion active, de la gestion passive, des actifs réels et du développement international.
Oui.
Nous sommes présents dans 35 pays et près de la moitié de la collecte est en Asie.
C'est la bourse, c'est New York, c'est les marchés émergents, les matières premières. Qu'est-ce qui vous a apporté ?
Mais ce qu'on apporte à nos clients, c'est cette capacité d'intervenir sur tous les marchés mondiaux. Nous sommes présents à Paris, à Londres, à Tokyo, aux États-Unis.
Celui, Yves Perrier, je vais avoir une réponse. Celui qui a marché, ben, votre recette, elle a été où ? Votre recette gagnante ?
Il n'y a pas une recette. Amundi a été créé il y a 10 ans et c'est le fruit d'un effort permanent de renforcement de nos expertises, de renforcement de notre présence géographique et aussi du renforcement des talents de l'entreprise. Ouais. Nous avons une équipe formidable.
Oui, d'accord, ok. Mais bon, vous avez une politique de taux bas où vous avez des banquiers qui nous expliquent que c'est très difficile en ce moment, que bientôt on va taxer les dépôts, que le rendement d'assurance vie, il faut qu'il baisse. En tous les cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Donc, il y a quand même des endroits où on gagne de l'argent, où on peut avoir un rendement positif. Et c'est là où je vous demande quoi ?
Oui, mais je vais prendre l'exemple des marchés émergents. Nous avons une équipe très forte sur les marchés émergents. Aujourd'hui, certes, il y a un ralentissement de la croissance mondiale, mais dans les marchés émergents, la croissance est de 4%. Et donc, on peut trouver du rendement. On peut trouver aussi du rendement dans l'immobilier. Nos SCPI que nous commercialisons auprès des particuliers ont un rendement de 4%. Donc, dans un univers de taux bas, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. Mais néanmoins, quand vous êtes un gestionnaire présent sur toutes les classes d'actifs, et sur tous les marchés, on trouve des opportunités.
Mais par exemple, les marchés émergents, il y a de tout dans les marchés émergents. Quelles ont été les zones qui ont été porteuses en ce troisième trimestre ? Parce que le Brésil, c'est difficile. L'Amérique du Sud, c'est difficile. La Chine, c'est moins performant. Où est-ce que ça a été positif ?
Oui, mais si vous voulez, je pense qu'on voit trop les choses en noir. À écouter certains commentateurs, nous serions rentrés dans une période chaotique, etc.
Je ne crois pas. La
croissance mondiale sera plus faible cette année que l'année passée, mais elle sera de 3,2% contre 3,8%. Et dans les pays émergents, elle est de plus de 4%. Bien sûr, vous avez l'Argentine qui est dans les difficultés qu'on connaît, mais beaucoup d'autres pays, notamment en Asie, demeurent en forte croissance.
Oui, moi j'aimerais savoir un petit peu quelles sont les zones sur lesquelles il y a beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs qui vous écoutent. Vous leur conseillez d'investir.
Bah, je vous ai donné, je crois qu'ils peuvent investir dans les fonds Amundi. Ce sont des fonds qui sont très performants.
Bon, là, on est dans la pub, ok. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut que changer de politique de la Banque Centrale Européenne, nouvelle présidente, Christine Lagarde? Est-ce que vous lui dites maintenant, il faut vraiment avoir une autre politique, suivre une autre politique monétaire?
Écoutez, on va dans le... Je formule souvent cette... Je paraphrase Winston Churchill pour la politique qui a été menée par Mario Draghi. C'est la pire des politiques, mais à l'exception de toutes les autres. Pourquoi cette politique? Cette politique a permis, en fait, dans un premier temps, de sauver la zone euro. On l'oublie un peu, mais au moment de la crise de la dette de la zone euro en 2012, elle l'a permis. Deuxième point, elle permet de rendre soutenable la dette de tout un ensemble de pays du sud de l'Europe, mais d'une certaine façon, la France comprise. Je pense toutefois, si vous voulez, que là,
on est... Vous avez raison de souligner la France. Absolument. C'est bon,
oui,
pour la France.
Parce que la France, aujourd'hui, est à près de 100% de dette par rapport au PIB. La dette privée en France a fortement progressé. Cette politique de taux bas permet de rendre soutenable ce niveau de dette. Cela étant, je pense qu'on est arrivé maintenant à un niveau où... il ne faut pas aller plus loin. D'une certaine façon, je dirais que des taux bas rassurent, des taux trop bas peuvent inquiéter. Cette politique a été nécessaire, mais je pense maintenant que le grand enjeu pour Christine Lagarde sera de retrouver un nouveau consensus au sein de la Banque Centrale Européenne, puisque vous l'avez noté, après les dernières... annonces qui ont été faites, un certain nombre de gouverneurs de pays ont exprimé des désaccords par rapport à cette politique.
La question, c'est quelle politique? Quelle politique suivre? Difficile de trouver
le problème aujourd'hui, c'est qu'on demande à la Banque Centrale de faire des choses pour lesquelles ce n'est pas sa mission. Le problème de la zone euro est le suivant. C'est une zone qui est en excédent de balance commerciale, qui a un déficit budgétaire global très faible, de l'ordre de 1% du PIB de la zone euro, mais avec des disparités très fortes entre les pays du Nord qui ont des surplus commerciaux importants, voire des excédents budgétaires comme l'Allemagne, et les autres pays. Et au fond, ce dont on manque, c'est une action budgétaire au niveau européen. Il faut que les gouvernements prennent le relais de la Banque centrale.
Oui, ça c'est un discours de banquier central, vous avez raison, mais voilà, il faut le faire, c'est toute la difficulté. Yves Perrier, est-ce que pour vous, il y a un danger sur le système financier européen, mais aussi mondial, avec cette politique de taux bas? Quand on écoute, je recevais le patron d'UniCredit, que vous connaissez bien, qui est le président aussi de la Fédération bancaire européenne, ou encore le patron de la Fédération bancaire française, le patron de la Société Générale, ils disent tous, si ça continue comme ça, ça va être une catastrophe pour le système financier, et du reste, on va sans doute taxer les dépôts. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde qu'eux? Vous êtes dans une position un peu particulière.
Oui, mais j'ai tendance à dire, bien sûr, cette politique crée des risques collatéraux. Ces risques collatéraux, c'est la formation de bulles d'actifs sur un certain nombre de classes d'actifs, puisque la valeur d'un actif est fonction des taux bas. Bien sûr, cette politique crée une pression sur les revenus de tout le système financier, les banques, les assureurs, les asset managers. Mais quelle est l'alternative? Oui. Il n'y a pas d'alternative. Donc il faut, dans la période qui vient, qu'on ait une double action, une action budgétaire pour dynamiser l'activité économique et qui pourrait en conséquence s'accompagner d'une forme de normalisation de la politique de la Banque centrale.
Oui, mais justement, quelle alternative pour la Banque centrale européenne?
Je crois que pour les 18 mois qui viennent, les taux vont rester bas. Je ne vois pas d'autres solutions.
Oui. Le Brexit, on en dit un mot. On est toujours dans une situation de marécageuse. Alors, il y a un petit espoir, ce sont les élections, mais ce n'est pas sûr qu'ils trouvent la sortie, qu'ils sortent de ce marécage.
Oui, disons que ce qui paraît maintenant plutôt probable, c'est qu'on n'aura pas un Brexit dur, comme on dit parfois. C'est qu'il y aura un accord négocié, puisque le Boris Johnson, en fait, l'a indiqué, d'ailleurs, dans sa campagne électorale, qu'il ne souhaitait plus un Brexit dur. J'ai personnellement jamais été très effrayé par cette question.
Oui, absolument.
Car, au fond, l'intérêt mutuel de la Grande-Bretagne, mais aussi de l'Europe continentale, c'est quand même que les choses se passent de la manière la plus harmonieuse possible. Donc on verra, il y a encore 2-3 mois d'incertitude, mais je ne pense pas qu'en fait on aille vers des solutions extrêmes.
Yves Perrier, deux questions. Je reviens un instant sur l'assurance vie. Les taux de rendement de l'assurance vie, à votre avis, ils vont tourner vers quoi ? On va voir.
Les taux de rendement de l'assurance vie baissent parce que l'assurance vie, comment elle investit ? Elle investit énormément dans de la dette d'État, dans de la dette d'entreprise. Dès lors que ces taux baissent, sont au niveau actuel, nécessairement, le rendement de l'assurance vie diminue. Pour autant, c'est un produit qui reste attractif compte tenu aussi de ses avantages fiscaux.
Mais on s'achemine vers des rendements de quel ordre ?
Dans l'assurance vie, il y a deux types d'assurance vie. Oui. Vous avez l'assurance vie, ce qu'on appelle le contrat en euros, oui. Et vous avez l'assurance vie en unité de compte. Et ce qui va se passer, c'est que les épargnants vont devoir diversifier leur contrat, avoir moins d'euros et plus d'unités de compte, c'est-à-dire de fonds en actions, de fonds en immobilier, qui donnent aujourd'hui des rendements supérieurs aux contrats en euros.
D'accord, les contrats en euros, ils seront à combien ?
Pardon ?
Ils seront à combien ?
Bah, écoutez, l'année passée, les contrats en euros étaient entre 1,5 et 2 %. Ouais. Cette année, ils vont baisser par rapport au niveau antérieur.
Quoi ? 1 ?
Non, écoutez, c'est difficile à dire, mais je pense qu'ils vont baisser. Hein ?
Et dernière question, mais c'est d'actualité. Il y a les privatisations. Vous savez, la première, la Française des Jeux. Est-ce que vous conseillez aux gens, aux investisseurs chez vous d'en acheter ?
Écoutez, je ne connais pas spécifiquement la valeur, mais c'est une entreprise qui a des revenus très récurrents. Le risque est quand même peu élevé, donc c'est probablement un bon investissement.
Allez, en conclusion, 1 milliard d'euros de bénéfices, c'est ce que vous avez visé ? Quelle échéance ?
Oui, on confirme. On avait annoncé environ 1 milliard d'euros en 2020 et on est sur la trajectoire.
Oui, même un peu plus vite, non ? Un peu plus rapide ?
Pardon ?
Un peu plus rapide ?
On est sur la trajectoire.
D'accord, on ne va pas aller plus loin, mais en tous les cas, ça fait beaucoup d'argent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Yves Perrier, donc le patron, le directeur général d'Amundi, était notre invité. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et dans un instant, c'est Emmanuel Grenier, lui, il est le patron de Cdiscount, qui sera notre invité. Évidemment, on change complètement de régime. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
C'est ça aussi, l'heure H, on change de secteur. On a eu donc la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, François Asselin, CPME. Donc à l'instant, on parlait de la politique centrale européenne avec Yves Perrier, le patron d'Amundi. Et maintenant, c'est Emmanuel Grenier qui est avec nous, le PDG de Cdiscount. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'avais dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? En l'occurrence, ici, c'est un pacte PME. C'est des PME, Cdiscount, c'est pas vraiment une PME.
Non, Cdiscount, c'est pas une PME, mais Cdiscount travaille avec plusieurs milliers de PME. Donc c'est une plateforme qui permet aux PME d'augmenter leur chiffre d'affaires en France et maintenant à l'international.
Oui, oui, on va parler de ça. Décidément, tout le monde veut parler d'abord de son business. Vous me direz, c'est pour ça que vous êtes là, peut-être. Moi, je voudrais quand même que vous m'expliquiez d'abord Cdiscount en deux mots. Vous pouvez nous donner des chiffres. J'aime bien les chiffres, savoir où est-ce qu'on va.
Bien sûr. Cdiscount, c'est une société qui a 20 ans, qui est le leader français du e-commerce. En trois chiffres, c'est 3,5 milliards de volume d'affaires l'année dernière. C'est 20 millions de visiteurs uniques, donc un tiers de la population française qui vient sur le site chaque mois. Et plus de 9 millions de clients par an.
Donc ça, c'est important. Et ici, il y a beaucoup de PME qui sont dans votre secteur, en l'occurrence, ou pas ?
Si vous voulez, il y a énormément de PME qui servent, qui nous fournissent des produits, que ce soit des vendeurs, des fournisseurs. On en a 5 000 PME françaises avec lesquelles on travaille. Et ces PME vendent à 9 millions de clients.
Alors justement, vous vous êtes associé, on y vient, vous voyez, Emmanuel Grenier, vous êtes associé avec 4 autres marketplaces au niveau européen, en fait, pour créer une espèce de, enfin, grand marché européen, hein, en tous les cas, que on ait accès à un marché de plus de 240 millions de consommateurs. Cette association, elle est avec qui et comment fonctionne-t-elle?
Alors, le principe, c'est quoi? Aujourd'hui, nos clients sont majoritairement français. On a permis à nos partenaires, aux PME, à vendre en France. Et l'objectif, c'est de leur permettre de vendre à l'international. Donc, on a monté une alliance avec 4 sites majeurs dans chacun de leurs pays, en Allemagne, en Roumanie, en Italie. Donc, 4 très gros marchés.
Et donc, la France avec vous, bien sûr.
Avec la France comme 4e pays. 4 très gros marchés qui vont permettre aux PME et à nos partenaires, en un clic, d'aller vendre en Allemagne, d'aller vendre en Roumanie ou d'aller vendre en Italie. Et les 4 pays cumulés, ça fait 230 millions de personnes. Oui. Donc en fait, ça quadruple le marché français.
Donc ça, mais il n'y a pas des questions de normes, il n'y a pas de questions de fiscalité, il n'y a pas des questions de TVA. Je veux dire, c'est compliqué quand même, parce qu'on a... Alors, le grand marché, il n'existe pas vraiment.
La volonté, c'est de l'avoir simplifié pour les PME, justement. C'est quand même, on est en Europe, donc tout ça est régi par des lois européennes, tout ça est simplifié par des lois européennes. Et donc le but, et c'est ça qui est important, c'est que les partenaires, les PME puissent avoir accès en un clic. J'insiste sur le un clic, c'est-à-dire je veux aller vendre en Allemagne, je veux au choix, je veux aller vendre en Roumanie ou en Italie, et vice-versa pour certaines PME allemandes ou italiennes, et je pourrai aller poster mes produits dans ces pays-là. Et ça, c'est 240 millions de personnes.
Et n'importe quelle PME, qu'elle soit française, peut aller vendre ses produits en Roumanie, en Allemagne ou inversement?
N'importe laquelle. Le principe, c'est qu'elle viendra d'abord s'inscrire, si elle ne l'est pas déjà, sur ses discounts. Pour un produit ou pour 100 000 produits, certains ont un produit, certains ont plusieurs centaines de milliers de produits, et on ira exporter automatiquement, parce qu'on on a mis beaucoup de technologies, ces produits, sur les plateformes partenaires.
Quelque part, ça peut être une réponse ou une contre-offensive, comme vous voulez, à Amazon.
Écoutez, on se définit pas par rapport à Amazon. On a une stratégie qui est la nôtre. En tout cas, cette stratégie, on est les seuls à l'avoir bâtie aujourd'hui. Après, si vous voulez me positionner en concurrent d'Amazon, oui, c'est la réalité. On est le concurrent d'Amazon en France. On est le principal concurrent en France et en Europe. Donc, c'est une réalité. Après, on déploie une stratégie qui nous est propre, qui est unique. Avoir créé une alliance de ce type-là, c'est une alliance qui est unique aujourd'hui en Europe.
Et en termes de livraison, comment vous organisez? Parce qu'Amazon, effectivement, vous commandez un produit suédois, allemand, mais il vous le livre dans les 2-3 jours. Est-ce que, même, voire le lendemain, est-ce que vous pouvez assumer le même service?
Alors aujourd'hui, il faut entre 3 et 4 jours pour que le produit français puisse aller atteindre l'Allemagne, l'Italie ou la Roumanie. Et avec le développement des volumes et l'augmentation des volumes, on pourra réduire ces délais. Le but est d'entrer très rapidement, entre 2 et 3 jours.
Quels sont les secteurs qui, à votre avis, sont les plus friands de votre alliance?
Alors, les plus gros secteurs sont les secteurs qu'on appelle, dans notre jargon, des biens non techniques, c'est-à-dire les secteurs des biens de la maison, la décoration, le jouet, la puériculture, parce que c'est là que vous avez énormément de produits sur des gammes qui sont complètement infinies. Et donc le sujet, c'est d'aller mettre des centaines de milliers, de le vendre des centaines de milliers de produits sur ces plateformes-là. Puis le deuxième secteur, c'est les biens techniques, énormément d'accessoires, énormément de téléphones ou des ordinateurs. Et donc globalement, un site comme Cdiscount, il vend tous les produits. On a 60 millions de produits en ligne aujourd'hui. Ouais. Et donc on va mettre ces 60 millions de produits à terme à disposition de nos partenaires.
Quel est pour rentrer sur Cdiscount, il faut que je paye combien? C'est quoi le...
Ah, c'est très modique en fait.
Pour s'inscrire, pour vendre.
Pour s'inscrire, vous allez payer. Pour vendre, vous allez payer 39 € par mois. Donc 39 € par mois, c'est extrêmement faible à l'échelle d'une PME.
Quelle que soit la taille de la PME.
Quelle que soit la taille, c'est le principe. Oui. Il n'y a pas de frais fixes. Et vous ne paierez que si vous vendez vos produits. Donc Cdiscount percevra une commission que si le produit est vendu. Donc vraiment, il y a une commission en échange de chiffre d'affaires réel. et pas de frais fixes.
À partir de quand cette marketplace, avec les cartes marketplace, sera effective? Ça l'est déjà?
Elle est déjà active. Elle est déjà active. Elle était en test depuis plusieurs mois avec certains de nos partenaires et elle maintenant... est maintenant complètement active.
Oui, ça
complètement active.
Est-ce que ce matin je recevais Arnaud Montebourg, l'ex-ministre du redressement, vous savez, qui prône le Made in France, qui défend le patriotisme économique. Est-ce que c'est quelque chose que vous défendez à travers Cdiscount? Est-ce que ça existe?
Mais fondamentalement.
Oui.
Si Cdiscount est une société française à capitaux français
et qui vend des produits français.
Et qui vend énormément de produits français, dont la majeure partie des partenaires sont des partenaires français.
Ouais.
Donc s'il y a un acteur qui est français, c'est bien nous. Et on défend cette posture-là, on défend cette position-là, parce que cette position, elle est unique en Europe. Il n'y a pas d'autres acteurs, aujourd'hui nationaux, dans le e-commerce, qui a la taille de Cdiscount, ni en Europe, ni quasiment dans le monde. Donc il y a une unicité, il y a une spécificité, et on la cultive. Et les clients commencent à reconnaître ça.
Justement, est-ce qu'avant c'était presque un peu du militantisme, est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu plus qu'une philosophie, je veux dire une habitude? Pas encore.
Non, je pense que c'est important pour nos clients. Nos clients sont avant tout des citoyens. On le voit de plus en plus aujourd'hui dans le monde qui nous entoure, pour les sujets le respect de la vie privée, pour le respect de l'environnement, de l'écologie, et pour le respect de ce qui est leur pays. Et les clients de plus en plus nous témoignent le fait d'avoir envie d'acheter sur un site français. En tout cas, dans un univers qui est totalement français, c'est important pour eux.
Emmanuel Grenier, est-ce qu'on peut... Vos principaux concurrents, en fait, en France, maintenant, c'est la grande distribution.
Je ne sais pas trop.
Il y a tellement de PME autour de vous, Emmanuel Grenier. Je disais que vos principaux concurrents en France, à part Amazon, c'est la grande distribution.
Alors, la grande distribution, tous les modes de consommation, tous les modes de distribution sont nos concurrents. On est juste... Un nouveau mode de consommation qui arrive, qui est basé sur deux choses, des révolutions technologiques qui sont importantes, puisque maintenant on est passé du l'achat en magasin au PC et maintenant au mobile. Hein, la mobile, c'est la moitié des ventes. Et puis des révolutions générationnelles, puisque les jeunes sont beaucoup plus addicts et beaucoup plus fans de ce qu'est Internet qu'on l'était il y a une vingtaine d'années. Donc, révolution technologique, révolution générationnelle.
Juste un mot, il nous reste moins d'une minute. La prochaine étape, c'est d'allier encore d'autres marketplaces comme les vôtres dans d'autres pays, ou qu'il y ait deux françaises ou pas, ou non, ou c'est une par pays.
Non, le but, c'est de rallier le maximum d'acteurs, au moins un à deux par pays. Ouais. Parce que il faut qu'on soit en lien, il faut qu'on crée cette alliance, on a été à l'origine de cette alliance. Il faut que cette alliance, aujourd'hui, elle rayonne sur l'ensemble des pays européens. Il faut qu'on crée une toile d'araignée pour pouvoir s'échanger les offres et donner accès à nos PME, c'est important, à l'ensemble du marché européen. C'est ça la clé.
Et c'est pour ça que vous êtes là. Merci beaucoup Emmanuel Grenier. Donc le patron de Cdiscount était notre invité ici au salon Impact PME. Voilà, nous on se retrouve bien sûr demain à 8h15 dans les studios de BFM Business. Et on se retrouve pour une nouvelle Eurage. Bonne journée.